Alors je vois la tête de Loulou déjà, et je suis en train de le perdre. Mais laissez-moi vous donner un petit peu de contexte. L'industrie des jeux vidéo, bien qu'avant était quelque chose d'anodin, aujourd'hui vaut mondialement plus de 90 milliards d'euros. 90 milliards d'euros, c'est quand même quelque chose d'énorme. Ça a dépassé l'industrie du film. C'est vraiment un secteur de divertissement énorme. Alors la base de tous les jeux, c'est similaire. Le but du jeu est d'atteindre le prochain niveau. Et pour cela, il faut terminer le niveau actuel. Tu peux changer d'idée, Léa ? Jusqu'au prochain niveau. On va revenir à cela. Si on veut faire avancer dans la vie, on doit souvent monter de niveau. Je ne sais pas s'il y a des fans de football dans la pièce. J'espère que je ne vais pas les blesser. Soit on peut aller jouer pour l'équipe de Waterloo au niveau football, qui n'est malheureusement pas très très bien classée. Hein, voilà. Ou alors on peut aller jouer au Standard de Liège, qui est en division 1. Je vois Camille qui a un visage réveillé. Mais je ne pense pas qu'elle est objective à ce niveau-là. Ah, hier soir, il y a eu un match. Alors, je ne vais pas commander. Alors, on peut imaginer la Louvière, qui est un petit peu plus bas dans le classement, parce qu'il y a eu des histoires avec des paris chinois, ils ont descendu. Mais ce qui est certain, c'est que si on veut augmenter niveau, il faut mettre un certain niveau d'effort pour y arriver. Il y a certains d'entre nous qui sont adeptes de la salle de sport et de faire de la muscu pour prendre des muscles. Si tu veux passer au niveau supérieur, tu vas devoir finir le niveau actuel et faire ta série de répétitions et augmenter le niveau de poids. Hein, on dit « no pain, no gain hein. ». C'est bien ça, Francesco? Alors, quand j'étais à l'école secondaire, je me rappelle bien, j'avais tendance à peut-être faire preuve d'un certain degré de paresse. Et je me rappelle, les professeurs écrivaient toujours quelque chose dans le genre « peut faire mieux » ou « peut mieux faire ». « Peut mieux faire ». Mais je me suis toujours posé la question, comment est-ce qu'ils savaient? Peut-être j'avais étudié des heures pour le résultat que j'avais. Et ils disaient toujours « peut mieux faire ». Alors je n'aimais pas les professeurs qui disaient après un 6 ou un 7, qui disaient « peut mieux faire ». Je me demandais vraiment comment ils le savaient. Bon, la vérité, c'est vrai que je n'avais pas étudié beaucoup, mais bon, ils n'étaient pas censés le savoir. Mais les professeurs exprimaient que pour passer au niveau supérieur, il va falloir donner un niveau d'effort supérieur. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des joueurs de jeux vidéo, mais ce sont des gens qui sont absolument passionnés. C'est une génération qui est arrivée et qui est prête à tout faire pour aller jusqu'au prochain niveau. Je vois des gens qui font oui, peut-être vous avez des enfants ou vous-même vous êtes quelqu'un qui joue à des jeux vidéo. Il y a des compétitions maintenant où les gens essaient de gagner leur vie en jouant à des jeux vidéo. Oui, ça existe, ils sont prêts à tout pour gagner. En France, en Pologne, il y a des maisons qui existent avec des gens qui jouent en équipe et ils vivent ensemble. Et au lieu d'aller au travail, ben, ils jouent toute la journée ensemble pour gagner des compétitions où le prix, ben, ça vaut parfois des centaines de milliers de dollars. C'est vraiment une industrie qui sont allés très très loin. Il y a maintenant quelque chose qui s'appelle le e-sport, le sport, on va dire, électronique, qui sait par exemple, au lieu de jouer au football sur un terrain, mais tu joues au football devant ta console, et puis on fait des grands championnats pour celui qui est le meilleur. Est-ce qu'il y a des joueurs de vidéo dans la salle? Allez, confessez vos péchés. Est-ce qu'il y a des joueurs de vidéo dans la salle? Quelques-uns, difficiles, ok. Alors, il y a un jeu que je vais vous présenter qui est sur la plupart des téléphones et des tablettes. C'est un jeu qui s'appelle Candy Crush, ou traduit en français, écrase les bonbons. Il y a plus de 93 millions de joueurs de Candy Crush dans le monde. Est-ce qu'il y a des joueurs de Candy Crush dans la salle? Parfait, super. On va avoir un temps d'intercession après pour vous. C'est un jeu à vraiment un succès mondial. Et alors, j'ai mis une petite vidéo de présentation, si tu peux appeler sur l'icône Chrome. Voilà, tu appuies sur espace. Et normalement, parfait, ça marche. Ah, pardon. Voilà. Un jeu avec plein de couleurs. Et c'est assez simple, c'est un jeu où il faut déplacer sur une grille des bonbons pour les faire exploser. C'est assez chouette, il y a 2000 niveaux dans ce jeu et à chaque niveau que tu passes, la difficulté est augmentée. Mais comme tu t'améliores à chaque niveau, ça va. C'est plus dur, mais comme tu t'améliores à chaque niveau, ça va. C'est parfait, tu peux couper ou alors on va avoir toutes des vidéos qui vont se mettre en route, on n'a pas envie de ça. Parfait. Prochain dia. C'est intéressant de voir que dans les jeux vidéo, on accepte que ça devienne plus difficile alors que le niveau augmente. Pourtant, c'est intéressant que dans notre vie chrétienne, alors qu'on devient de plus en plus fort avec Jésus, alors qu'on va de victoire en victoire à travers Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, on a tendance à vouloir que la vie devienne de plus en plus facile. Moi, j'ai envie de dire ici ce matin que Dieu est en train de nous équiper et de nous préparer, de nous revêtir de puissance pour être prêt à sortir de notre zone de confort et à aller où on n'a pas encore été. J'ai envie de dire ce matin que Dieu veut nous voir aller jusqu'au prochain niveau en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. Et je ne pense pas que les choses vont être nécessairement de plus en plus faciles alors qu'on avance. Je pense que pour voir une révolution de l'Évangile en Belgique et dans notre région, ça va prendre les efforts d'une génération radicale qui sont prêts à mettre leur temps, leur argent, tout ce qu'ils ont. Et quand je vois ces joueurs de jeux vidéo qui le font, je me dis que peut-être moi en tant que chrétien je pourrais le faire. Il faut savoir, quand Dieu nous équipe, il est en train de te préparer à aller jusqu'au prochain niveau. Et je crois fermement que lorsqu'on applique ce message ici de la Bible qu'on va voir, ça peut tout changer pour nous. Parce que si on entre dans un mode de pensée que de dire que Dieu est en train de nous préparer à aller jusqu'au prochain niveau, et que tu passes au prochain niveau, et puis que toi tu passes au prochain niveau, et puis que toi tu passes au prochain niveau, et puis toi, il y a un moment où en tant qu'Église, on va tous passer au niveau supérieur. Alors moi je suis certain que si on demandait à Pascal, il a une vision pour l'Église, il a envie de voir l'Église ici de Boisvillers se passer à un niveau supérieur. Alors au niveau du monde physique, ben voilà, on peut faire plus d'activités, on peut organiser des nouvelles activités d'évangélisation, on peut se tourner plus vers notre prochain. Il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place. Puis au niveau supérieur en tant qu'individu, on peut voir aussi qu'il y a peut-être une soif en nous de vouloir plus de choses. Ça, ce sont toutes des indices qui indiquent qu'on est en train de passer au niveau supérieur. Et j'aimerais bien voir ce matin la vie d'un personnage biblique qui est vraiment une belle incarnation de ce qu'on est en train de voir. C'est un des 12 fils de Jacob. Son nom même venait du verbe, quand la Bible a été écrite, elle a été écrite en hébreu à cette époque-là. Et c'est, le verbe qui est utilisé, c'est yasap. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire ajouter, augmenter, faire encore. Son nom même veut dire, en fait, à Joseph, qu'on va voir, son nom même veut dire passer au niveau supérieur. Regardons Genèse au chapitre 37. Alors Jacob, à partir du verset 3, Genèse 37 à partir du verset 3, Jacob, surnommé Israël, aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Bon, ça commence bien, ça fait un peu famille dysfonctionnelle, mais bon, voilà. Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Un jour, Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Ici, on a Joseph qui passe du temps avec ses frères qui ne l'aiment déjà pas du tout. Et en plus, à l'époque, quand les gens avaient un rêve, c'était vraiment quelque chose qui était vu comme une révélation des dieux. Donc si tu venais et tu dis « j'ai eu un rêve » et que tu l'expliquais, tu es en train de dire « voilà ce que les dieux ou le dieu m'a dit sur ce qui va arriver ». Et Joseph, il s'avance vers eux et il leur dit ceci « écoutez donc ce songe que j'ai eu, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent « est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Au prochain niveau, premier niveau, la promesse. Alors ici on a Joseph qui a un rêve, mais pas juste un rêve normal. Mais il a une promesse de Dieu, on va dire un rêve de Dieu. Tu sais comment on différencie un rêve normal d'un rêve de Dieu? C'est facile, pour que le rêve s'accomplisse, si c'est un rêve de Dieu, il faut que Dieu agisse. C'est impossible que tu arrives tout seul. Par exemple, ici pour Joseph, ses frères le détestaient, mais ils le détestaient vraiment, le vocabulaire est fort, quoi. Ils le haïssaient. Alors, peut-être Joseph aurait pu essayer de travailler pour que ses frères l'aiment bien, je ne sais pas, il aurait pu les inviter au cinéma, voir le dernier match du Standard de Liège en VIP, il aurait pu mettre une photo sur Facebook avec ses frères qui disaient « j'aime mes frères », voilà. Hein. Il aurait pu faire beaucoup de choses. Hein, voilà, il aurait pu leur acheter une voiture. Il aurait pu leur donner des cadeaux, leur donner des compliments. Mais malgré tous ses efforts, même si peut-être à la fin, qu'il aurait supporté. Jamais, à aucun moment, ses frères ne se seraient prosternés devant lui. Et là, on peut voir la différence entre un rêve normal et un rêve de Dieu. Alors, moi, je vais dire aujourd'hui, que ce matin, que chaque personne dans cette salle devrait avoir un rêve de Dieu. Chaque personne devrait avoir un rêve de Dieu, savoir un rêve qui est vraiment pas possible à y arriver par nos propres moyens. Ça doit nous intimider, ça doit nous obliger à courir vers Dieu parce qu'on est un petit peu déstabilisé, on se demande comment ça va se passer. Donc vraiment quelque chose qu'on ne peut pas faire par nos propres moyens, et on sait que c'est juste Dieu qui peut nous aider. Alors ça, c'est un rêve de Dieu. Si on a un rêve de Dieu, en fait même on peut aller plus loin, c'est pas nous qui avons le rêve, c'est le rêve qui nous a. On peut citer plein d'hommes dans l'histoire de l'Église qui ont eu des rêves de Dieu tellement forts que ça a imprégné leur vie, que ça a changé leur vie et que ça se transmet même parfois de génération en génération. En plus de Dieu, donc, comme je disais, il est contagieux, le rêve de Dieu. Il y a un homme, il y a très longtemps, en 1517, qui s'appelait Martin Luther. Cette année, c'est les 500 ans de la Réforme. Hein, il y a un homme qui était catholique et qui a décidé de vouloir rendre accessible la parole de Dieu à tout le monde. Il a lu la Bible, il a regardé ce que l'Église prêchait et il a vu une grosse différence. Et il a commencé à faire une recherche intellectuelle, une recherche spirituelle. Il voulait apporter la parole de Dieu à tous les peuples. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien, on entend les exemples, mais qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de rêve de Dieu? Parce que je dis ça, peut-être on est là, moi j'en ai pas. Alors c'est facile, il suffit de passer du temps avec lui. C'est simple. Il est le créateur originel. Il est capable de te donner un rêve tellement incroyable que ça t'en décoiffe les chaussettes. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans mes amis, mes collègues, à l'école, à l'UNIF, au travail? La seule chose qui va limiter la grandeur du rêve de Dieu pour nos vies, c'est notre imagination. C'est nous-mêmes, en fait. Si on regarde le monde aujourd'hui, ce sont les sociétés qui sont en train de conduire l'art et la culture. J'ai cité les jeux vidéo. Mais je pense que dans notre Église, il y a des idées assez folles qui peuvent naître, qui peuvent à nouveau transformer la société. Imaginons un monde où c'est des gens qui sont issus de l'Église, qui se basent sur Dieu, qui ont des idées tellement révolutionnaires qui en réforment la société. Alors l'Église se trouverait à tirer la société dans une certaine direction. Est-ce qu'on a un rêve de Dieu? Si tu as un rêve de Dieu, tu seras prêt à tout pour cela, tu seras prêt à sacrifier ton temps, ton argent, tu seras prêt à déménager, tu seras prêt à changer de pays, de nation, à trouver un boulot, à en perdre un autre. Tu seras prêt à faire toutes sortes de choses parce que tu ne le fais pas pour toi, mais pour la promesse que Dieu t'a donnée. Est-ce que ce ne serait pas extraordinaire que tu as peut-être reçu quelque chose de la part de Dieu et que tu ne savais pas si c'était de lui, mais que ici, en ce moment, c'est en train d'être confirmé? Que le rêve que tu as reçu, eh bien, il vient bien de Dieu. Est-ce que tu as un rêve de Dieu? Alors Joseph, tout va bien pour lui, mais il va passer au niveau supérieur. Il va passer au niveau supérieur et ça va devenir difficile. Verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Les frères de Joseph complotent de le faire tuer. Niveau 2, le trou. Alors, il faut un petit peu être conscient, il faut se préparer que s'il y a un rêve, eh bien, il peut y avoir de l'opposition. Et si c'est vraiment un rêve de Dieu, je pense même qu'il va en avoir. Surtout s'il vient de Dieu. La Bible dit que l'ennemi vient pour tuer, voler et détruire. Pierre 5, verset 8 dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Si on a un rêve de Dieu, il va y avoir de l'opposition. Pour Joseph, ses frères le mettent dans le trou et il souffre du rejet. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir dire que j'ai un code de triche qui permet de passer au niveau supérieur sans passer par le niveau du rejet. Sans passer par le rejet, malheureusement, c'est pas vrai. Jésus, il a lui-même subi le niveau du rejet. Il a été rejeté. Et on va devoir subir parfois du rejet pour passer au niveau supérieur. La question pour ce point, c'est de savoir, lorsqu'on est confronté au rejet, est-ce qu'on se tient prêt ou est-ce qu'on s'enfuit? La peur du rejet nous empêche vraiment d'aller où Dieu nous appelle à être. On a quelque chose d'inscrit en nous, où on a envie d'être accepté. Et la peur du rejet, elle est vraiment nourrie par exemple par la popularité. Mais elle est combattue par la communauté. Si tu restes avec des gens juste pour la popularité, la peur du rejet, elle va être alimentée. Mais si tu fais partie d'une communauté, alors tu enlèves totalement la peur du rejet. Si on est un petit peu obsessif dans ses relations, si on tient les gens très proches, qu'on est vraiment insécurisé de leurs réactions, si on essaie de les serrer très proches, de les contrôler presque, ça veut dire qu'on est un petit peu dans la peur du rejet. Et c'est intéressant de voir qu'au plus on serre les gens proches de nous dans cette attitude de contrôle, au plus on va les perdre. Être populaire, c'est un petit peu... Moi j'aime bien dire quand on a des amis sur Facebook, c'est bien, c'est comme avoir de l'argent au Monopoly. Ça fait bien, mais ça ne sert pas à grand chose. Si on a difficile si on ressent de l'anxiété, de la tristesse, de la dépression, qu'on commence à penser à notre cercle d'amis, à notre cercle social, si on a difficile à connecter avec les gens qu'on ne connaît pas, imaginons un peu un scénario où on a tous déjà vécu ça, je suis certain, où la peur du rejet nous a contrôlés. Imaginons un scénario où vous allez quelque part et nos amis, les personnes qu'on rencontre ne sont pas là, je sais pas, on va aller aux toilettes, on va aller sur notre téléphone. Mais imaginons qu'on aille parler à une nouvelle personne. Parce que voilà, on n'est pas basé sur la peur du rejet, et cette personne-là, on la rencontre, et il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans cette conversation, et sa vie est transformée parce qu'on témoigne de Jésus dans sa vie. Mais si on a la peur du rejet, non, on va rester dans notre coin, on va pas déranger les gens, on va pas choquer, on regarde ce que les autres ont fait. Parfois, on a même tendance à nourrir notre peur du rejet par les réseaux sociaux. Je parle beaucoup des réseaux sociaux aujourd'hui. Ça va, vous êtes toujours avec moi? On regarde par exemple sur les réseaux sociaux, les gens ils mettent que leur victoire sur les réseaux sociaux. Et chaque moment qu'on passe à observer la vie des autres, on est en train de manquer ce que Dieu est en train de faire dans la nôtre. Imaginons que un jour, imaginons un jour que Pascal, notre cher pasteur, décide de faire un barbecue. Et c'est une conversation anodine. Pascal et toi vous parlez et il demande qu'est-ce que tu fais de beau ce soir? Et là tu lui dis ce soir moi je suis fatigué, soirée tranquille. Je vais aller voir le dernier film sur la une avec de la salade, du poulet. Je vais passer prendre un dorum, je vais regarder Netflix. Je me repose. Et juste avant, t'es chez toi, t'es en train de te reposer. Et juste avant de lancer ton film, hein, sur Netflix ou sur la télévision, tu regardes les réseaux sociaux et tu vois Pascal sur Facebook avec 3 personnes autour d'un barbecue. Et là, tu commences à penser pourquoi j'ai pas été invité. Et en plus, il a fait du poulet grillé, et le poulet grillé, c'est ton truc préféré. Je suis peut-être pas assez drôle, peut-être que c'est pour ça. Peut-être pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez cool. Peut-être il m'aime pas. Et c'est là que la peur du rejet prend le contrôle. Alors la vérité est simplement que tu as dit que tu étais fatigué et que Pascal a honoré le fait que tu devais te reposer. Parce qu'on sait très bien que si Pascal organisait un barbecue, toute l'église serait invitée. Chantal, tu es d'accord, hein? Pourquoi j'ai pas été invité à cette soirée, à ceci, à cela? Et la peur du rejet prend le contrôle. Alors, parfois, on devient un petit peu super sensible. Est-ce que vous savez que les sociologues appellent la génération d'aujourd'hui la génération flocon de neige? On est sensible à tout. Quelqu'un ne répond pas à notre SMS, on n'a pas été invité, on n'a pas eu de sourire, on se sent rejeté. Alors si on veut pouvoir affronter le rejet, la peur du rejet à l'extérieur de l'Église, il faut être certain qu'on doit pouvoir accepter le rejet par erreur qui se fait dans l'Église. Si on veut pouvoir accepter le rejet qui va se passer au travail, dans notre vie, peut-être même dans notre famille, il faut être certain que le rejet accidentel qui se fait dans l'Église, on doit pouvoir l'accepter. Si on est super sensible, on se limite parce que la peur du rejet prend le dessus sur nous. Imaginons que si on commence à réaliser que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4, verset 4. Si on réalise qu'on est une créature merveilleuse, psaume 139. Si on réalise que tu es sauvé par grâce, Éphésiens 2, 5, et qu'on est un chef-d'œuvre de Dieu, verset 10. Et qu'on comprend que peu importe ce que les gens disent sur nous ou font sur nous, on sait qui on est, alors on va plus fuir le rejet, mais on va l'affronter. Et on va le vaincre au lieu d'être brisé par celui-ci. Parfois, on va chercher chez les autres ce qu'on devrait trouver auprès de Dieu. Moi, je me souviens très bien que quand je vais dans les rues évangéliser, je suis vraiment soumis à la peur du rejet. Parce que je sais très bien que les inconnus que je vais rencontrer, ils n'ont pas à avoir de pouvoir sur moi. Enfin, je sais qui je suis, je sais qui Dieu dit que je suis. Hein. Et donc, quand je vais leur parler, parfois, j'ai un petit pas en arrière. Mais comment ils vont réagir? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il ne faut pas laisser la peur du rejet prendre. Non. Moi, je sais qui je suis. Il n'y a pas quelque chose qu'ils peuvent me donner. Il n'y a pas quelque chose que je vais aller chercher chez eux. Chaque jour, on a une opportunité de s'entraîner, car tous les jours, on va être soumis à une forme de rejet. Mais j'encourage vraiment à pouvoir régler le rejet qui se passe dans l'église, parce que sinon on ne pourra pas affronter celui qui est en dehors. Ici, c'est le moment de savoir que nous, on est en Christ, et de faire vraiment face au niveau du rejet. Car lorsqu'on a une victoire sur le niveau du trou, on peut passer alors au niveau supérieur. Une petite parenthèse, dans 1 Corinthiens 13, il y a un verset magnifique qui parle de l'amour. Et il est marqué que l'amour supporte tout. Parfois, j'ai l'impression qu'on porte nos émotions sur nos manches, comme des boutons de manchette. Et qu'il se passe quelque chose, on est blessé directement. Et si le fait d'être des gens d'amour, c'était un petit peu retirer ces manchettes de sensibilité, et de pouvoir rester confiant dans qui on est, ce que Dieu dit qu'on est. Si on fait ça, on peut vraiment passer au niveau supérieur. Regardons ce qui se passe chez Joseph, Genèse chapitre 39, à partir du verset 1. Les frères de Joseph ne l'ont finalement pas tué, mais ils l'ont mis dans le trou, et ils l'ont vendu à des esclavagistes ismaélites. Verset 1, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, et à cause de Joseph, la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Niveau 3, la plateforme. Joseph, c'est un esclave. C'est un esclave qui n'est pas juste resté dans son coin, mais qui a servi avec un tel niveau d'excellence qui a été remarqué par le maître de la maison. Et que toutes les responsabilités de la maison lui ont été confiées. La seule chose que la Bible nous dit dont Potiphar devait s'inquiéter, c'est si à midi il allait manger chinois ou italien. Je propose italien. Moi, je pense qu'on est un petit peu appelé à vivre comme Joseph. La question est, pourquoi est-ce que Joseph il a fait cela? Est-ce qu'il était à la recherche du pouvoir, de l'argent? Peut-être qu'il voulait des trucs matériels, il voulait que sa situation s'améliore. J'ai l'intime conviction que Joseph il a fait ça parce que c'était qui il était. Je me souviens très bien, un jour j'étais au Moyen-Orient, j'étais en Jordanie, et j'ai demandé, on était un petit peu perdu, on cherchait comment rentrer à la capitale Amman, et on a demandé la direction à quelqu'un. C'est par où la capitale? Et il nous a indiqué une direction. Donc on a commencé à marcher dans cette direction, puis on a demandé à quelqu'un d'autre, et il nous a indiqué la direction opposée. C'est bizarre, bon. Peut-être la personne s'est trompée, puis on demande une troisième, quatrième, cinquième personne, et là, les gens nous donnent presque parfois des directions différentes. Alors, peut-être ils se moquent des étrangers qui sont là en Jordanie, qui marchent dans le soleil, je ne sais pas. Et puis on m'a expliqué en fait que dans la culture au Moyen-Orient, si quelqu'un te demande une direction, tu ne peux pas lui refuser de donner une direction. Alors même si tu ne connais pas, tu vas lui en indiquer une. Ah ouais. J'ai appris ça la dure façon. Alors dans leur culture, ça devient quelque chose qui fait partie d'eux-mêmes. De pouvoir répondre à quelqu'un qui pose une question, plus un étranger, s'il répond pas hyper à la face. Enfin voilà, c'est toute une série de choses qui fait que c'est devenu qui ils sont. C'était pas méchant envers moi ou envers l'équipe avec qui j'étais, c'était juste qui ils étaient. On a marché, quoi. Est-ce que ce ne devrait pas être la même chose dans nos vies, pour les choses qu'on incarne? Ça devrait faire partie de nous. Imaginons, on retourne à nos vies, à nos sphères d'influence, et on ne peut pas s'empêcher de servir avec excellence, on change la donne, pas pour l'argent ou la position, mais parce que ça fait partie de qui on est. On veut être un témoin au travail, on peut travailler avec excellence. Alors, le problème, c'est que comme on est parfois la génération flocon de neige, on va passer du temps à se plaindre qu'on n'est pas assez payé, que notre boss n'est pas assez sympa, etc. Mais si on regarde l'histoire de Joseph, lui, il était esclave, et il ne se plaint pas de la situation. Alors, on pourrait se dire, écoute, c'est pas possible pour moi de tout donner dans mes études, mon travail. T'as pas rencontré mon patron, Benjamin. Tu ne le connais pas. Si j'ai envie de te dire que si tu es dans un travail et que tu n'es pas en train de partir, Dieu t'a très probablement placé là pour être une personne d'influence qui peut changer la donne. Si on veut changer notre pays, notre ville, notre église, c'est pas en faisant le minimum, mais c'est vraiment en donnant le maximum. Parce que c'est cela vraiment que Jésus nous a enseigné, à faire le deuxième kilomètre. Ce serait marrant si un jour des agences de travail se réunissaient et ils parlaient, ils disaient, voilà, moi je vais chercher les gens à l'université de Liège, parce que j'aime bien le niveau professionnel qu'ils dégagent là-bas. Ah non, moi je préfère Bons, ils ont un instrument plus technique dans les candidats que je rencontre. Imaginez quelqu'un qui travaille pour une agence d'intérim qui dit, ou une agence de travail qui dit, ah, moi je vais chercher les gens dans l'église de Bois-de-Villers. Dans une église? Oui. Ils n'ont pas toujours les compétences, ils n'ont pas toujours la formation, mais quand ils viennent travailler dans la société, ils changent, ils transforment la culture. Ça semble un peu utopique ce que je suis en train de dire. Mais j'ai l'impression que c'est ce que Joseph il a fait, il a changé la culture. Notre région n'a pas besoin d'avoir une nouvelle définition du christianisme, mais elle a besoin de voir les valeurs de l'évangile vécues dans la vie pratique. Alors j'aimerais beaucoup dire qu'après, pour Joseph, tout s'est bien passé. Voilà, il a été reconnu par toute la nation d'Égypte, il est arrivé au palais du roi, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Regardons le verset 6. Joseph, Genèse 39, chapitre 39. Alors Joseph était beau de taille et beau de figure. Est-ce qu'on a des gens qui s'identifient à ça? Non? C'est vrai. Moi je me rappelle, un prédicateur a posé ça dans une salle de 800 personnes. Je me suis levé. Je blague pas. Et je ne vous dirai pas ce qu'il a dit après. C'était amusant. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa. Bien joué, Joseph. Et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. » Comment ferais-je aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle, de passer du temps avec elle. Il y a une leçon super importante dans la dernière partie du verset 10. Il refusa d'être avec elle, de passer du temps avec elle autant qu'il le pouvait. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun gens dans la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Alors cette fille, elle n'était pas loyale, hein, apparemment pas. Mais j'aime bien ce que Joseph a fait, il a gardé ses distances. Et on pourrait se poser la question, si la femme était moche. C'est une question sérieuse, on pourrait se dire ça. Alors, dans la tradition, on donne au nom de cette femme Zelekia, qui est un mot hébreu pour dire qu'elle était vraiment très attirante. C'était une belle femme. Elle ne s'enfuyait pas parce qu'elle était moche, c'est pas pour cela, il s'est enfui parce que son appel, l'appel que Dieu avait sur sa vie, était plus important pour lui que du sexe occasionnel avec une personne. Il s'est enfui parce qu'il était plus attiré par le rêve de Dieu qu'il avait sur le cœur que par cette femme. Il était un homme d'intégrité quand personne ne regardait. Alors ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? je ne suis pas en train de dire qu'il faut couper les relations dans nos vies de tous les gens qui sont négatifs. On est appelé à être une lumière dans le monde en amenant l'amour de Dieu. Mais s'il y a quelqu'un qui nous distrait, qui nous éloigne, qui nous tire vers le bas, il y a peut-être des questions à se poser. On pourrait peut-être arrêter de répondre à cette personne qui nous envoie des messages et qui ne produit pas des bons fruits en nous. On pourrait peut-être arrêter de suivre cette personne sur les réseaux sociaux. Moi, je sais seulement que parfois, si on veut passer au prochain niveau avec Dieu, parfois, il faut prendre des décisions radicales. Alors, je ne donne pas trop d'exemples parce que c'est vraiment un truc très personnel, une conviction très personnelle, mais il y a parfois des situations dans notre vie où il faut couper les ponts, garder nos distances, comme Joseph a fait. Alors, on peut se dire, ouais, mais si je fais ça, la personne, elle va le prendre mal. J'écoutais ce pasteur d'Angleterre qui s'était fiancé il y a quelques années à Paris, avec une belle bague en diamant, et il a changé sur Facebook son statut de célibataire à fiancé. Aussi avec sa belle, hein, comme ça c'était pas gênant. Donc voilà, il était fiancé officiellement sur Facebook. Et c'est intéressant car il raconte que ce qui lui est arrivé, c'est que dans quelques jours après, il y a son ex qui lui a écrit, qui lui envoie un message et qui dit « Hey, tu veux qu'on se voit vite fait ?» Tu veux qu'on se voit vite fait. Ce pasteur, il a même pas répondu. Il était en train de passer à la suite de ce que Dieu avait pour lui. Et il a gardé ses distances par rapport au danger. Et même si ça offensait quelqu'un, c'était ok. Joseph, je suis certain, il a blessé la femme de Potiphar. Elle l'a sans doute mal pris. Ici, on a un Joseph qui a fait la meilleure des choses. Et on espère que Dieu va se montrer, que tout va être mis à la lumière. Qu'il va pouvoir passer de la plateforme au palais. Eh bien non, c'est pas ça qui se passe. Alors la femme de Potiphar crie au viol, car elle a son manteau. Et Potiphar jette Joseph en prison. Verset 20, il prit Joseph et le mit dans une prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. On dirait que Joseph, là, il a perdu un niveau. On dirait vraiment qu'il a perdu un niveau. C'est peut-être vrai sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, là, Joseph, il avait gagné un niveau. Parce qu'il a gardé son intégrité. Et c'est vraiment ce genre de personne où moi, je pense que Dieu recherche. Parce que Dieu nous voit dans le moment d'intégrité. Alors ici, avant l'influence, Joseph, il est au niveau 4, il est à la prison. La prison, c'est vraiment un endroit moche, c'est un niveau de douleur et d'endroit noir. Si on est chrétien, et que, si tu es chrétien, on t'a dit que tout allait toujours aller bien, c'est pas vrai. On a encore des souffrances dans la vie, mais la différence, c'est qu'il y a Jésus qui marche avec nous. Et ça, c'est quand même une promesse extraordinaire, c'est quand même une force qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Jésus nous dit, il n'y aura pas de souffrance, mais il dit, dans les souffrances, je serai toujours là. On croit on a tendance à croire que les personnes qui ont des biens matériaux, qui ont des biens matériaux, sont bénies. Si tout va bien dans leur vie, c'est qu'ils sont en ordre avec Dieu. C'est un peu bizarre, les gens qui sont en prison, on a tendance à croire que Dieu n'est plus avec eux. Mais c'est pas vrai. On a vu quand Joseph était esclave, il est marqué que Dieu le bénissait, qu'il avait la faveur sur lui. Ici, on peut même voir, au verset 21, l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. C'est pas parce que tu es en prison que Dieu t'a abandonné. Même au contraire, tu peux être certain que dans ta prison, Dieu, il est là. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Moi, je pense que le niveau de la prison, c'est là où Dieu fait des fils et des filles vraiment de son royaume. Dans la prison, il y a la douleur, et on n'aime vraiment pas la douleur. On a envie qu'elle parte. Mais j'ai envie de te dire que malgré la douleur, on va réussir à vaincre et on va pouvoir aller au niveau supérieur. Pas fuir, mais vaincre la douleur de la prison. La douleur, elle est souvent définie par notre niveau d'intensité. On avait parlé de la salle de gym. On peut définir notre niveau d'intensité. On peut tout faire, par exemple, on peut aller à la salle de gym et mettre 1 kg. C'est beaucoup 1 kg, Francesca, c'est pas beaucoup. Hein. Non, non. On peut aller à la salle de gym tous les jours, mais on n'ira pas très loin. Mais si on commence à sortir de notre zone de confort, on peut tout faire pour aller plus loin. On peut tout faire pour ne pas se tuer, mais lorsqu'on se met devant Dieu et qu'on décide d'affronter le processus de la prison avec lui, il y a des progrès, on s'améliore, on est alors capable de surmonter la douleur. Si tu as un endroit dans ta vie où tu attends Dieu, tu attends un miracle en ne faisant rien, en ne bougeant pas de ta chaise, tu risques d'attendre longtemps. Malgré la douleur, Joseph a agi avec bonté. Et on peut le voir ici dans le verset qu'on va lire. Il y avait deux personnes dans la prison qui avaient le visage noué. Et c'est très intéressant de voir que, alors que Joseph était au milieu de sa souffrance, il a arrêté de regarder à lui-même, il était voir les autres personnes. Il est marqué que Joseph voit deux hommes au visage triste et il interprète leurs rêves. Un de ces hommes était au service du pharaon. Et lorsque le pharaon a eu un rêve à son tour, personne ne savait lire le rêve. Mais l'homme au service de Pharaon se souvint de Joseph et il fut appelé pour l'interpréter. On a ici Joseph qui est chef de la prison, qui est en train de marcher dans la prison, qui voit deux hommes avec vraiment le visage défait. Et il va s'inquiéter pour eux, il va prendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. On a eu deux rêves vraiment choquants. Joseph leur donne l'interprétation de leur rêve. Voilà, il l'oublie un petit peu et puis Pharaon a un rêve. Pharaon, le roi d'Égypte, a un rêve et personne n'arrive à donner l'interprétation. Verset 15, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe, après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Joseph, il savait très bien qui il était. Ses paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu ? Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Niveau 5, le palais. Joseph a été à travers tous les niveaux. Et il est arrivé au palais. On peut regarder les gens qui sont au niveau du palais et on peut se dire, moi j'aurais bien été là aussi. On peut voir les gens qui ont soit un grand ministère, une grande vie. Mais est-ce qu'on est prêt à passer par tous les niveaux inférieurs qu'ils ont traversés? Moi je me souviens très bien ici, il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un pasteur de France qui s'appelle Samuel Peter Schmidt. Et ce qui m'a vraiment choqué, c'est par toutes les épreuves par lesquelles cet homme il est passé. C'est un des pasteurs francophones les plus médiatisés sur Internet. Il y a environ 10 000 personnes par semaine qui le suivent, 2 à 3 fois par semaine. C'est vraiment un homme qui a, on va dire, un succès dans ce qu'il fait. Mais vraiment, il est passé par des moments difficiles. Mais Dieu s'est démontré qu'il était là. Et je me dis, parfois, les gens doivent voir cet homme et dire, oh, « J'aimerais bien que la même chose se passe dans mon église. J'aimerais bien qu'on soit comme cette église-là ou comme cette église-ci. » Est-ce qu'on est prêt à passer par la même chose? Est-ce qu'on est prêt à mettre le sacrifice, l'intensité? Joseph, il a répondu à l'appel en étant esclave à l'âge de 17 ans. Et il est seulement arrivé à sa position d'autorité quand il en avait 30. De 17 ans à 30 ans. 13 ans de souffrance, et il n'a pas abandonné. Est-ce que nous, on irait à travers 13 ans de souffrance? Je me pose parfois la question, est-ce que moi, j'irais à travers 13 ans de souffrance? Joseph, il l'a fait et il a mené la provision et la solution aux années difficiles qui ont atteint l'Égypte. Grâce à Joseph, la famine qui allait dévorer le pays n'a pas eu lieu. C'est vraiment un homme qui a transformé non seulement la société, mais qui a sauvé énormément de vies, qui a pu créer une place pour le peuple de Dieu. Le fait qu'il ait eu ses 13 ans de souffrance et qu'il se soit accroché à Dieu, il y a vraiment une conséquence énorme sur la société dans laquelle il se trouvait. Tout le monde savait que le Dieu de Joseph était le Dieu qui faisait la différence. Joseph est entré dans son rôle d'autorité à 30 ans comme Jésus. Joseph et Jésus étaient aimés de leur père. Ils ont tous les deux été mis à part. Tous les deux ont été rejetés par des proches pour quelques pièces de monnaie. Tous les deux ont été accusés pour quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Et ils ont dû tous les deux payer pour quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Joseph a été mis en prison et Jésus, il a été mis sur la croix. Sauf qu'en plus de ça, Jésus, il est passé à un niveau encore plus bas. Il est passé au niveau du tombeau. Il est allé à ce niveau-là pour que nous tous, on ne doive plus y aller. Joseph a été placé en position de premier ministre dans tout le pays d'Égypte. Et Jésus, lui, il a été ressuscité, il a vaincu la mort. Il est arrivé au niveau ultime pour nous montrer la voie. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on passe à travers quelque chose que lui n'a pas vécu. Dieu ne s'attend pas à ça. Tout ce qu'on doit faire, c'est d'aller là où Jésus a déjà marché. Et peut-être on a peur parce qu'on dit qu'il y a un moment donné au tournant, il va y avoir un gros boss final comme il y a dans certains jeux vidéo. J'ai parlé beaucoup de jeux vidéo, je suis vraiment désolé. Hein, on va peut-être imaginer qu'à la fin, il y a un gros boss qui va nous manger tout cru, mais le truc, c'est que Jésus, il a tué le boss il y a longtemps. Il n'y a plus de grands méchants. Il faut juste passer les niveaux, avancer avec Jésus. Alors moi, je ne sais pas ce matin où est-ce que tu te retrouves sur ce beau schéma qui a été fait. Je ne sais pas si tu es au niveau 1, 2, 3, 4, 5. Mais ce que je suis certain, c'est qu'il y a Dieu qui veut nous parler ce matin et qui veut faire quelque chose dans cette église, qui veut nous aider à passer au niveau supérieur. Alors quel espoir pour le monde, quel espoir. Jésus, c'est notre espoir. Jésus, c'est celui qui va nous aider à pouvoir passer au niveau supérieur. Amen. Je vais inviter les filles à revenir, on va faire un dernier chant. J'aimerais bien qu'on puisse tous se mettre devant Dieu et peut-être réfléchir s'il y a quelque chose qui a tourné dans ton cœur par rapport à cette idée de rêve de Dieu. Tu n'en as pas, que tu veux en recevoir un, que tu en as reçu un, que tu veux qu'il soit confirmé. Moi, je pense qu'on peut vraiment aller devant Dieu et lui demander de nous parler fortement. Si tu es dans le trou ou dans la prison et que c'est vraiment difficile, moi, je t'encourage à t'accrocher, à demander à Dieu vraiment de te rappeler le rêve qu'il t'a donné. Si tu es sur la plateforme et que tu es en train de servir alors que ce n'est pas vraiment l'endroit où tu devrais être, mais que tu sers avec tout ton cœur, que Dieu puisse juste te donner la force de continuer. Parce qu'il veut tous qu'on puisse arriver à un moment dans la vie où on a vraiment une sphère d'influence qui est tellement grande qu'on peut transformer tout ce qui est autour de nous. Tu es la meilleure personne pour atteindre les gens qui sont autour de toi. Tu es vraiment cette meilleure personne pour atteindre tes amis, ta famille, ton entourage. Prions. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ta grâce, pour ta paix, Seigneur. Merci pour ta parole qui éclaire vraiment nos sentiers. Jésus, je veux te remercier parce que tu nous accompagnes dans toutes les saisons de la vie. C'est toi qui es descendu au plus bas, Seigneur. Tu es arrivé dans le tombeau, tu as vaincu la mort et on ne doit plus y aller. Par tes meurtrissures, Seigneur, on a été vraiment guéri à tout niveau, Jésus. On va te prier de pouvoir continuer à déverser en nous des rêves spéciaux, Seigneur. Et Seigneur, moi, j'ai pas envie de dicter les rêves des gens qui sont dans cette pièce. C'est que toi, tu peux leur parler et tu peux trouver un rêve sur mesure pour chaque personne. Quelque chose qui va toucher nos cœurs. Merci Seigneur aussi parce que quand on marche dans les moments vraiment de souffrance, eh bien tu nous accompagnes. Je te prie que tu puisses nous aider Seigneur à pouvoir pas regarder la souffrance, mais Seigneur à aller vraiment vers les autres, à nous distraire de notre souffrance en allant vers les autres, à pouvoir vraiment servir. Et je sais qu'au milieu de tout ça, Jésus, à un moment donné tu vas intervenir, tu vas nous sortir de cette prison et tu vas nous établir dans le palais. S'il y a quelqu'un qui se sent dans la prison ce matin, Jésus, je veux prier que tu puisses venir mettre la paix dans leur cœur pour dire que même s'ils sont dans ce lieu-là, eh bien, t'es toujours avec eux. Ils ont toujours la faveur que tu as pour eux. Si y a quelqu'un ici qui est contrôlé par la peur du rejet, Seigneur, et c'est peut-être chacun d'entre nous à un certain niveau, je prie qu'il puisse vraiment venir nous délivrer de ça, Seigneur. On veut sortir de notre zone de confort. Fais nous donner des opportunités conscientes où on peut dire, ok, non, je vais pas me laisser contrôler par ça, mais je vais aller de l'avant, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Viens vraiment toucher notre culte ce matin et notre assemblée. En ton nom, Jésus. Amen.